Décryptage sur RFI.
Anne Cantner.
Nous parlons aujourd'hui d'un paradoxe, le déclin de l'économie française en Afrique alors que de plus en plus de personnes dénoncent la mainmise de la France sur le continent. Dans les rues, dans les capitales ouest-africaines, notamment à Bamako, à Ouagadougou, on critique une relation déséquilibrée, on se tourne vers d'autres partenaires. Et la France prend la situation au sérieux puisque toute une série d'initiatives politiques sont organisées comme le forum Ambition Africa en ce moment à Paris. Quelle est la présence réelle de la France dans l'économie africaine ? Qu'attendent les pays africains de Paris ? Décryptage pendant les 20 prochaines minutes. Bienvenue. Pour mieux comprendre la situation, deux invités. Bonsoir Étienne Giros.
Bonsoir.
Vous êtes le président du Conseil français des investisseurs en Afrique et d'une organisation européenne qui réunit le secteur privé investissant en Afrique, l'EPCAM. Et en face de vous, Denis Cognot, directeur de recherche à l'École d'économie de Paris, à l'IRD et à l'EHESS. Vous êtes spécialiste de l'histoire économique de l'Afrique. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes là pour répondre à l'appel de l'histoire, c'est-à-dire pour dire non à la France-Afrique, pour dire non à l'impérialisme de manière idéologique.
Nous sommes là aujourd'hui pour combattre les manœuvres sorcières de la France-Afrique et du monnaie franc CFA.
Les deux voix que l'on vient d'entendre sont celles de deux jeunes Nigériens dans un reportage d'Afrique Média. Ils ont manifesté il y a un peu plus de deux semaines. On vient d'entendre ce qu'ils ont dit. Pourtant, Denis Cognot, ça ne correspond pas exactement à l'influence réelle de la France aujourd'hui. En tout cas, du point de vue économique, la France n'est plus la puissance dominante.
Bah, disons que ce qu'on peut appeler les interdépendances entre l'Afrique et le continent africain, et particulièrement entre la France et ses anciennes colonies africaines, y compris même les anciennes colonies d'Afrique du Nord, hein, pas seulement d'Afrique subsaharienne, ont beaucoup décru, effectivement, depuis les indépendances, depuis la période coloniale, dans plusieurs dimensions. Hein, donc, du point de vue du commerce, d'un côté, du point de vue de la relation d'aide, donc de la relation bilatérale d'État à État, et du point de vue de l'investissement direct étranger. On passe à des étiages qui sont aujourd'hui, en termes commerciaux, par exemple, si on prend juste les anciennes colonies françaises en Afrique, leur commerce avec la France, ça se situe autour de 10 à 15% de l'ensemble de leur commerce, alors qu'ils représentaient 70% en 1960. Hein, donc on est déjà à un étiage qui a fortement décru et cette décrue s'est un peu accentuée depuis le début du XXIe siècle, mais disons qu'on est sur une tendance de très long terme, qui est une tendance qui, pour le commerce, qui se voit pour le commerce, qui se voit pour l'aide au développement, on a peut-être l'occasion d'y revenir, qui se voit aussi sur les investissements directs étrangers, même si ceux-là, les investissements directs, sont encore assez pesants, assez forts, les investissements directs français dans les anciennes colonies françaises. Et si on compare la France avec le Royaume-Uni et ses anciennes colonies africaines aussi, la tendance est à peu près similaire, c'est à peu près la même. Donc, même si en termes de niveau, en fait, effectivement, la relation France-africaine, puisqu'on parlait de ça dans les commentaires des deux Nigériens, est un petit peu plus élevée que la relation britanno-africaine, on peut dire ça.
Avec une tendance qu'on observe malgré tout de manière assez similaire dans les anciennes colonies des deux pays. Et pourtant, les rancœurs, les reproches sont très forts. Ils viennent aussi de hauts responsables politiques, y compris dans les pays avec lesquels la France a des relations économiques et commerciales plutôt étroites, comme le Sénégal. Je vous propose d'écouter Aminata Touré. Elle est une ancienne première ministre du Sénégal et elle résume la situation de cette manière.
Je vais vous dire aujourd'hui, que ce soit au niveau des élites ou de la jeunesse, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on gagne dans une relation avec l'Europe qui date de plusieurs siècles, qui n'a pas produit du développement chez nous, qui ne nous a pas aidé forcément à transcender nos questions de développement central, de lutte contre la pauvreté, d'emploi pour les jeunes, d'émancipation des femmes.
Alors ça, c'était il y a quelques mois lors d'un forum et ce discours est assez répandu dans la même veine. Un économiste sénégalais lui aussi, Papa Dembatia, m'explique qu'en fait, la France, les Occidentaux en général, n'ont pas intérêt à prêter de l'argent aux Africains pour le développement industriel parce qu'en fait, ce serait un moyen de se faire concurrence à eux-mêmes. Étienne Giros, est-ce que vous entendez cette lecture ? que ça vous parle et quelle est votre position sur ce point ?
D'abord, je l'entends parce qu'elle est réelle. Il serait absurde de nier la réalité. D'abord, pour revenir sur le premier sujet, pardonnez-moi, mais oui, la position économique de la France, des entreprises françaises en Afrique, elle a baissé depuis 20 ans. Je ne vais pas embêter les auditeurs avec trop de chiffres, mais enfin quand même, on est passé de plus de 10% de part de marché, en gros la France, dans les imports-exports, à 5%. Nous étions les premiers importateurs en Afrique, maintenant c'est l'Allemagne. Donc ça, c'est des réalités. Donc je ne le nie pas, c'est une réalité. Mais il faut voir pourquoi. D'abord, il faut voir parce que l'Afrique, elle s'est ouverte au monde. Et le commerce avec l'Afrique, il y a 20 ou 30 ans, se concentrait en gros, majoritairement, sur la Grande-Bretagne et la France. Aujourd'hui, des nouveaux acteurs sont arrivés qui s'appellent la Chine, l'Inde, la Turquie, et ils ont pris des places. Donc quand vous êtes deux sur un marché et que vous passez à 6 ou 7, c'est absolument objectif et normal que ceux qui étaient là avant voient leur part baisser. Deuxièmement, et après j'arrête avec les explications économiques, mais deuxièmement, la caractéristique des entreprises françaises en Afrique, ce n'est pas toujours de réaliser de l'import-export comme le font les Allemands, les Anglais et autres. Nous nous installons et nos entreprises s'installent en Afrique avec des filiales. Et ça, ça n'entre pas dans les statistiques douanières. Quand des Orange développe le téléphone portable, quand la Société Générale est une des premières banques en Afrique, ça n'entre pas dans les statistiques douanières. Alors que d'autres opérateurs européens vont faire de l'export et ça va entrer dans les statistiques douanières. Et donc ça, ça se mesure par une notion qui s'appelle les investissements directs à l'étranger faits par la France. Or là, nous sommes seconds. Je vais vous donner juste deux chiffres. Les premiers, c'est l'Angleterre, essentiellement à cause de Shell, qui a 65 milliards de stocks d'investissement. La France est seconde avec 60 milliards. Troisième, États-Unis 54. Et quatrième, la Chine avec 43 milliards, largement derrière. Donc, l'idée de dire que la Chine a bouté hors de l'Afrique la France, il y a un peu de vrai pour ce que j'expliquais tout à l'heure, mais ce n'est pas tout à fait exact.
Donc on voit que la situation est plus nuancée, ce qui n'empêche pas les reproches que l'on vient d'entendre, y compris de la part de très hauts responsables politiques, et notamment en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que vous vous adaptez à cette situation et à ce discours ?
Bon, d'abord, c'est une réalité. Ce discours, il ne fait pas toujours plaisir. Mais c'est une réalité, donc on l'entend et on ne le nie pas. En revanche, si vous me permettez, je vous dirais que beaucoup de ce qui fonde ce discours n'est pas toujours exact. L'analyse du franc CFA, la situation qu'on vient d'entendre sur le non-investissement par les Français parce qu'on se ferait concurrence, ça n'a pas de fondement économique. Donc, dans certains cas, de la manipulation, quelquefois par des puissances étrangères. Il n'y a qu'à pas aller chercher très très longtemps dans le calendrier pour voir ce qui peut se passer, ce qu'on peut deviner. Mais cette situation, elle s'explique, à mon avis, de plusieurs faits. D'abord, par la présence de la France qui est ancienne en Afrique, avec un passé colonial qui a été très fort et très présent. Une relation qui a continué d'une certaine manière après 1961-62, qui n'a pas été suivie par les Anglais, par exemple. Et puis par certains sujets d'actualité qui crispent la population. Je vais prendre l'exemple des visas, par exemple. Je ne porte pas de jugement sur la politique des visas. La seule chose que je peux dire, c'est que ça impacte l'image que les Africains ont de la France. Et enfin, je vous dirais qu'il faut distinguer entre l'image que les Africains ont de la France, État, gouvernement, d'une part, et sa politique, et d'autre part, l'image que les entreprises françaises ont vis-à-vis des acteurs africain, qui est différente et plus positive.
D'ailleurs, votre organisation établit un baromètre chaque année. Et si j'ai bien lu en préparant l'émission, ça a changé un tout petit peu cette année. L'image oui. des décideurs était en déclin depuis plusieurs années et là, ça bouge un peu.
C'est un baromètre que nous faisons dans 14 pays d'Afrique auprès des décideurs, c'est-à-dire ceux qui, au fond, influent sur l'opinion à travers les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est assez intéressant d'interroger ceux qui guide un peu les autres quand même, ou qui les influent. On l'a fait depuis 4 ans, et la première fois que c'est sorti, on a découvert que la France était 5 ou 6e en termes d'image et en termes d'impact. Ce qui n'a pas été une bonne nouvelle et pas très agréable. Alors qu'en revanche, les entreprises étaient mieux vues. Mais quand même, ça a été une déception, ça a été un petit choc pour nous. Alors ensuite, depuis 4 ans, la France s'est plutôt tassée, pas beaucoup améliorée, et il y a un léger redressement, vous avez raison, depuis 2021, qui se traduit de deux manières. D'abord, la France monte un tout petit peu, très faiblement, mais surtout, les autres puissances, qui sont des puissances occidentales devant nous, baissent un peu. Et donc, il y a beaucoup d'explications qu'on pourrait donner, mais il y a quand même, à mon avis, une stabilisation.
Vous avez parlé d'Orange. Orange fait partie des entreprises françaises qui sont parfois critiquées. Ça a été le cas en Guinée. On entend aussi régulièrement des critiques contre le groupe Bolloré au Cameroun, au Burkina Faso, par exemple. Il y a eu des manifestations il y a quelques mois. Les manifestants réclamaient la résiliation du contrat qui permet à l'entreprise de gérer le chemin de fer. Est-ce que les types de secteurs dans lesquels travaillent ces entreprises peuvent avoir une influence sur la perception qu'ont les habitants de leur position et d'une mainmise supposée, à votre avis, Denis Cogniaux?
Oui, enfin, d'une certaine façon, là, ce qui ressort de notre échange là, d'ores et déjà, c'est que bon, il y a encore de la France-Afrique, hein, il y a encore une relation spécifique que certains voient de très négative, d'autres un peu moins. En comparaison, ne serait-ce qu'avec la relation entre la Grande-Bretagne, l'ancienne... Voilà. Donc ça, c'est vrai. Et ça se traduit finalement moins dans la relation de commerce, moins dans la relation d'aide, mais comme disait Étienne Giraud, beaucoup plus dans la relation d'investissement. Et donc là, vous parlez d'Orange Bolloré, c'est des entreprises, Orange qui a... disons pas un monopole, mais un quasi-monopole dans certains pays de la téléphonie mobile. Vous avez Bolloré qui possède une grande partie des infrastructures portuaires, pas seulement dans les anciennes colonies françaises, par ailleurs, aussi dans les anciennes colonies britanniques voisines en Afrique de l'Ouest. Hein. Il s'agit là, cette fois-ci, plus tellement des échanges commerciaux, disons, inégaux, éventuels, mais de la présence du capital français. Et là, pour le coup, là, lorsqu'on prend les données du Fonds monétaire international, alors, je ne sais pas si on a exactement les mêmes chiffres tous les deux, mais le capital français est plus présent dans ces anciennes colonies françaises que, par exemple, le capital britannique naît dans ces anciennes colonies. Il est très présent en Afrique du Sud, le capital britannique, par exemple, mais l'Afrique du Sud est quand même un pays très particulier dans l'ensemble. Et le capital français est même en Afrique de l'Ouest spécifiquement, plus présent que le capital britannique dans les anciennes colonies britanniques comme au Nigeria et au Ghana. Et il est présent en particulier à cause de, notamment de Total, hein, je veux dire, d'entreprises dont les investissements sont soit pour l'extraction minière, mais également dans la distribution d'essence, puisque Total a une très, très, très grosse part de marché dans la distribution de carburant sur l'ensemble de l'Afrique, et pas seulement en Afrique francophone ou dans les anciennes colonies françaises. Donc, la vision, oui, donc on a Total, ensuite on a Alstom, on a des gros poids lourds, on a des banques françaises aussi qui ont encore des positions assez fortes. Voilà. Donc c'est ça qui est peut-être constaté. Moi, j'ai l'impression que il y a une relation qui existe encore, qui s'est quand même pas mal réduite, dont le volume, disons, possible, c'est pas mal réduit. Même l'aide française aux États représente maintenant plus que 20% de l'aide reçue totale des anciennes colonies françaises, par exemple, parce qu'une grande partie de l'aide française circule via l'aide européenne, et donc elle n'est plus visible comme aide française, elle est juste une aide européenne. Mais malgré tout, il y a pas mal d'aides françaises dans l'aide européenne. Donc voilà. Et j'ai l'impression que dans ce qui était exprimé, là, dans les différentes interventions que vous avez passées, c'est une forme de forte déception par rapport à des attentes. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on a à gagner de préserver ou de défendre encore ou de rentrer ou de continuer à entrer dans une relation privilégiée? Et donc, il y a parmi ces opinions exprimées, mais également dans la situation malienne, il y a une forte déception par rapport à l'action française ou aux apports réels du capital français. C'est une déception qui provient de la place importante et la question est soulevée de est-ce qu'on pourrait pas faire mieux avec moins.
Vous nous parliez d'ailleurs du glissement qui s'opère de la France toute seule vers la France au sein de l'Union européenne. C'est par ce biais qu'Emmanuel Macron a promis une nouvelle relation il y a quelques mois, une nouvelle relation avec le continent. Écoutez.
L'objectif de ce sommet est de refonder en profondeur la relation. Parce qu'elle s'est elle-même, il faut bien le dire, à travers ses instruments, bureaucratisée et un peu fatiguée. Elle doit s'appuyer sur plusieurs axes que nous avons préparés ces derniers mois. D'abord, refonder un New Deal économique et financier avec l'Afrique.
Un New Deal économique et financier avec l'Afrique, est-ce que le fait de s'exprimer au niveau européen, c'est une bonne méthode selon vous? Est-ce que ça peut permettre de contourner, Étienne Giros, une partie des reproches et des rancœurs qui s'accumulent contre la France et les représentants de la France dans les pays francophones?
Je crois que, comme l'a dit le Président, je crois qu'il faut écrire un nouveau récit de notre relation. Vous avez utilisé, mon interlocuteur a utilisé le mot de France-Afrique. Je ne conteste pas ce mot-là parce qu'il y a une relation particulière, historique, et j'allais dire affective presque, entre la France et l'Afrique. Et moi qui préside le secteur privé européen, je vois bien que nous autres Français, on a quand même un comportement vis-à-vis des Africains qu'on est les seuls à avoir de par ce passé. Donc il ne faut pas le nier, je pense que c'est positif. En revanche, les aspects qui pouvaient être négatifs de la France-Afrique dans le passé, ça, il faut les oublier, ils n'existent plus. Donc maintenant, il faut voir l'avenir. Donc il faut effectivement, et le président de la République a raison, il faut écrire un nouveau récit parce que par ailleurs, tous nos interlocuteurs africains sont maintenant des nouveaux venus par rapport à l'ancienne époque des années 60 ou 70 qui avaient connu la colonisation. Ça c'est fini maintenant, c'est des jeunes générations qui sont totalement mondialisées, ouvertes vers le monde. Et donc c'est plus une relation historique, c'est une relation de professionnels, je dirais. Alors ensuite, je pense que la critique qui est faite sur la relation France-Afrique, puisque vous avez utilisé ce terme-là, elle focalise beaucoup de non-dits ou de problèmes internes, mais elle n'est pas toujours juste. La question a été posée de savoir, qu'est-ce qu'il y aurait pour un Africain à gagner à travailler au rang des entreprises françaises? Moi, je vais vous le dire, ce qu'il y a à gagner. C'est que les entreprises françaises, elles se comportent mieux ou au moins aussi bien que les meilleures en Afrique, en termes de RSE, en termes de genre, en termes de respect, de lutte contre le réchauffement climatique, en termes de respect de l'état de droit, etc., nous nous comportons bien. Je vous ai cité un certain nombre d'entreprises. Orange emploie plus de 25 000 personnes, avec un service de qualité, mais il y a 3 ou 4 autres grands opérateurs. Bolloré investit entre 300 et 500 millions d'euros par an en Afrique. Total délègue ses stations-service à des personnels locaux. Donc, oui, les entreprises françaises ont un comportement relativement exemplaire et voilà ce que les Africains ont à gagner de notre présence.
Et pourtant, on l'a entendu à plusieurs reprises, les reproches sont de plus en plus importants, on les entend de plus en plus. Est-ce que les pays dont l'influence grandit en Afrique, on en a parlé tout à l'heure, la Chine, l'Inde, la Turquie, eux ont proposé autre chose, finalement, Denis Cogniot, aux pays africains?
Je ne sais pas, mais c'est là peut-être qu'on est on a un désaccord. Les aspects négatifs de la France-Afrique, ça serait très bien qu'on puisse effectivement tirer un trait dessus, mais bon, des faits de corruption existent aussi récemment. Bolloré a reconnu des faits de corruption au Togo. Donc, comme je disais tout à l'heure, le volume total dans lequel tout ça peut s'exprimer, c'est fortement restreint. Donc, de toute façon, au bout du compte, oui, il y a sans doute moins de possibilités de France-Afrique négative qu'il n'y en avait avant. Espérons qu'il y ait des possibilités de France-Afrique positive avec le nouveau partenariat dont Emmanuel Macron parlait. Maintenant, vous parliez d'emploi ou de création d'emplois. Effectivement, une bonne partie du capital français aussi est investi dans des secteurs qui ne sont pas forcément énormément créateurs d'emplois. D'après le Trésor, par exemple, on fait les filiales françaises en Afrique, tout compris, font 400 000 emplois à peu près. Et donc 200 000 au Maghreb, 200 000 en Afrique subsaharienne.
Merci beaucoup. On vous presse un peu, mais on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir participé. Étienne Giros, président du Conseil français des investisseurs en Afrique, et Denis Cogniot, économiste, directeur de recherche à l'École d'économie de Paris, à l'Institut de recherche pour le développement et à l'École des hautes études en sciences sociales. Cette émission a été préparée par Arnold Assewa et Patrick Adam à la rédaction en chef. Toute l'équipe vous retrouve demain à la même heure. Très bonne soirée sur RFI. Priorité.